Place publique.
Vous vous êtes rué sur le dernier modèle de smartphone Galaxy Note 7 de Samsung. Eh bien, éteignez-le et rapportez-le rapidement au magasin sous peine d'explosion dans votre poche. Soit un fiasco pour le fabricant sud-coréen, leader mondial du domaine dans la fabrication des smartphones. Nous essayerons avec un spécialiste dans quelques instants d'en comprendre les enjeux.
Et vous, sans téléphone, comment feriez-vous pour vivre ? Tout à l'heure, ne manquez pas notre entretien « Ciel, mon smartphone ».
Nous sommes deux fois plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 80 ans. 8,2 millions de personnes vivent en Suisse de façon permanente. Nous nous demanderons quels sont les enjeux de cette croissance démographique.
La population suisse en constante augmentation, les gens se déplacent de plus en plus. Ce sera l'interview « J'habite trop loin ».
La campagne pour l'élection présidentielle française s'accélère. Hier soir, c'était le premier débat télévisé pour la primaire de la droite. Nous avons demandé à un politicien neuchâtelois et à une experte en langage non verbal de débriefer pour nous ce grand oral de tous les dangers. Ce sera en direct en troisième partie d'émission.
L'occasion de se demander comment faire devant la caméra si on veut être présidente ou président de la République française.
Jusqu'à 19h, place publique. Nadia et Gabriel.
Madame la Présidente, bonsoir.
Monsieur le Président Gabriel, bonsoir.
Eh bien,
bonsoir à tous.
Bonsoir, nous allons présider à cette émission. Ce devait être le modèle dernier cri du leader mondial des smartphones, Samsung. Au final, on peut parler d'un fiasco. Le Galaxy Note 7 a été retiré de la vente dans le monde entier, en cause un risque d'explosion de la batterie de l'appareil. Des millions d'ailleurs d'appareils sont retirés. Les pertes chiffrent en milliards d'euros. Le fabricant sud-coréen a a-t-il perdu ainsi une bataille dans un marché ultra concurrentiel ? A-t-il perdu même plus qu'une bataille, la guerre ? On en parle avec vous, Xavier Souder, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des nouvelles technologies et blogueur pour xavierstouder.com. Et donc, vous parlez régulièrement de toute l'actualité qui touche la téléphonie. Alors, est-ce que le jeu de la concurrence acharnée entre les constructeurs, on pense bien sûr d'abord à Samsung et Apple, se fait au détriment de la fiabilité des appareils ?
Non, je ne pense pas qu'il se fait au détriment de la fiabilité des appareils. Ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a des soucis de sécurité ou de fabrication dans l'histoire industrielle, que ce soit pour des smartphones ou d'autres choses. Je rappellerai ces constructeurs automobiles qui ont dû changer des freins sur des millions et des millions de voitures. Je pense que globalement, la concurrence est bénéfique pour l'innovation. Ça stimule l'émulation entre les constructeurs et on a tous à y gagner, que ce soit en termes d'innovation technologique ou de prix, parce que ces constructeurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus, puisqu'ils sont les uns face aux autres et que tant en matière de performance que de prix, ils doivent s'aligner les uns par rapport aux autres.
On a l'impression quand même que Samsung a beaucoup perdu. Il a carrément cessé de produire ce modèle. Et outre les pertes qui se chiffrent en milliards, on l'a dit, ça offre un boulevard pour l'iPhone 7, par exemple.
Alors, il faut peut-être nuancer un tout petit peu ça. Il ne faut pas oublier que plus tôt dans l'année, Samsung a quand même commercialisé le S7, qui est un appareil qui fonctionne bien. Il faut voir que l'iPhone 7, il y en a deux versions. Il y a le grand et le petit. Et là, c'est surtout, ça laissera pas mal de place, disons, pour la version grande du smartphone. Après, souvent, les consommateurs s'intéressent aux smartphones un peu plus petits. Donc, effectivement, il y a un manque à gagner évident pour Samsung. Mais aujourd'hui, il a quand même un appareil qui est encore sur le marché, voire plusieurs appareils. Il faut pas oublier qu'il ne fabrique pas que le Note 7. Et pendant longtemps, ces appareils style Note 7 ont été des appareils un petit peu accessoires et toute l'attention s'est portée sur le vaisseau amiral un peu plus petit. Donc effectivement, il y a une perte, il y a une perte d'image, de réputation, mais ce serait peut-être pire si Samsung avait eu des problèmes avec son autre modèle.
Il y a une guerre des brevets, la concurrence fait rage. Est-ce que cet épisode est plus dommageable qu'il n'y paraît ? On parle d'un modèle de phablette, mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a un dégât au niveau de la concurrence ? Est-ce que Samsung est blessé ?
Alors oui, on peut dire que Samsung est blessé, ça fait jamais du bien. Ce qui est très dommageable dans cette histoire, c'est qu'il y a eu un premier appel, il y a eu une volonté de corriger le problème. Et puis le consommateur se rend compte que cette correction n'était pas effective, parce que Samsung a eu de nouvelles difficultés par la suite. Ça veut dire qu'il n'a pas maîtrisé, en fait, la cause de ces incidents, qu'il a dû revenir et faire marche arrière pour tout abandonner, ce qui veut dire que quelque part, il n'a pas maîtrisé son processus de fabrication, la conception de cet appareil. Ça, les gens, je pense que, et le consommateur va s'en rendre compte, c'est clair que c'est pas bon du tout pour l'image.
On parle maintenant de concurrence acharnée, on l'a dit, pour de l'innovation. Hein, vous dites que ce n'est pas forcément toujours un mal qu'il y ait plusieurs concurrents qui se tirent la bourre. C'est quoi la prochaine grande révolution qui attend le secteur, selon vous, ou c'est qu'il va falloir faire la différence?
Alors, je pense qu'on peut regarder un petit peu quels sont les investissements des constructeurs aujourd'hui ou quelles sont les nouveautés qui arrivent, que ce soit sur des smartphones ou des ordinateurs. Et on s'aperçoit que ce soit chez Microsoft, on parle de Cortana, chez Apple, on parle de Siri et chez Google, on parle d'assistant personnel. Je pense que la prochaine révolution dépasse le simple matériel, même s'il reste très important puisque Google investit aussi aujourd'hui dans le matériel. La prochaine révolution, ou disons la grande tendance, ce sera l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'ère du matériel, c'est bien, mais aujourd'hui, on peut aller sur ce terrain-là, les choses s'essoufflent un petit peu. Le vrai défi aujourd'hui, c'est d'utiliser cette montagne d'informations. On entre un petit peu dans une ère post-numérique, parce qu'aujourd'hui, tout est numérique, contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans la presse. Et je pense que le défi aujourd'hui, c'est de gérer cette société post-numérique, de gérer des montagnes d'informations, d'en tirer parti. Et là, l'intelligence artificielle a déjà commencé à faire très fort avec un Siri, par exemple, mais on n'est qu'au début de cette nouvelle révolution.
Le smartphone omniprésent dans notre vie, on va en parler dans quelques instants, mais on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Vous venez d'en faire mention, on parle aussi d'objets connectés. Est-ce que le smartphone va perdre en influence et va devenir un objet parmi d'autres ?
C'est difficile à dire parce qu'on n'est jamais complètement devin, on ne sait pas quelles sont les nouveautés qui vont arriver. Cela dit, si on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a eu des parchemins, il y a eu des livres, ensuite ça a été remplacé par des écrans. Et j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on ait un support physique entre les mains pour s'informer, pour accéder aux richesses d'Internet, pour accéder à cette société numérique. Je vois mal, disons, ce qui va remplacer le smartphone. Alors peut-être qu'il va s'enrouler, peut-être qu'il sera flexible, peut-être qu'on va le mettre autour du poignet et l'étirer, je ne sais pas encore quelles sont les nouveautés qu'on nous prépare, mais il va rester quelque chose qui nous permettra de communiquer avec l'extérieur et d'accéder aux informations.
Alors justement, avec Samsung hein, qui nous pète dans les mains, alors c'est peut-être l'heure pour nous de nous souvenir comment on faisait avant, hein, histoire de ne pas être pris de court si jamais on devait s'en passer. Alors moi, je passe à l'interview. Ciel, mon smartphone. Alors, le matin, qu'est-ce qui va vous réveiller si votre smartphone n'est plus là ?
Oh, bah, on peut imaginer qu'une montre intelligente, par exemple, effectue cette mission-là. Je l'ai eu fait d'ailleurs, hein. C'est déjà quelque chose qui est possible aujourd'hui. Effectivement, les objets connectés sont à surveiller de très près. Ou des assistants que l'on installera dans son salon ou dans sa chambre à coucher, avec les risques que ça peut impliquer au niveau de la confidentialité. On peut imaginer que tous ces objets connectés nous réveillent.
Toujours dans la connexion donc. Et puis si vous êtes dans les bouchons, comment est-ce que vous prévenez vos collègues que vous êtes en retard si vous n'avez pas de smartphone ?
Alors là, c'est délicat. Hein. Je pense que c'est devenu un objet aujourd'hui incontournable et je vois mal comment on pourrait faire ça. On n'a pas des pigeons voyageurs avec soi. Donc le smartphone aujourd'hui est incontournable. Ce serait difficile, disons, de prévenir ses collègues si on est bloqué dans un bouchon.
On va enfoncer le clou, hein.
On va continuer, effectivement. Alors, nous sommes vendredi soir, ce soir, souper entre amis. Comment savoir si vous prenez un parapluie ou non ?
Là aussi, je pense que la seule solution, c'est de se tourner vers son smartphone.
Et pas regarder le ciel.
Oui, alors on peut regarder le ciel, c'est vrai. Je pêche.
Et puis, comment vous faites pour justement faire rendez-vous avec vos amis ce soir ?
Ah, mais là aussi, là, je suis obligé de passer par mon smartphone, désolé. Ou bien peut-être pas sur mon ordinateur, là, il est devant moi.
Et la cabine téléphonique la plus proche, vous vous en souvenez ? Vous savez où elle est ?
Ouais, il y en a plus beaucoup. Il faut vraiment les chercher. On a de la peine à les trouver aujourd'hui.
Et puis, demain, grand départ pour un petit week-end en amoureux. Les billets d'avion et l'hôtel, vous les réservez comment ?
Ah, encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué à des booking.com, on est habitué à des Airbnb et à d'autres services. Ce serait difficile quand même de revenir en arrière à l'agence de voyage, mais pourquoi pas ?
Et puis, arrivé à l'hôtel, première chose que vous demandez, pas le Wi-Fi, mais vous demandez quoi pour joindre vos proches ?
C'est dur, hein, et puis d'autant plus que le Wi-Fi, on l'utilise pour Skype, pour aller consulter ses mails, ses messages... Oh, la conclusion est évidente. Aujourd'hui, sans smartphone ou sans objet connecté, on est un petit peu perdu. C'est à se demander comment on faisait avant.
Eh bien, on s'en est un peu souvenu, mais on remarque que c'est très difficile de faire un pas en arrière. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, Xavier Studer. Merci aussi d'être venu nous faire part de votre analyse à la suite de cette déconvenue majeure qu'a subi le premier fabricant de smartphones, Samsung. On renvoie tous ceux qui aimeraient rester informés sur cette actualité de consulter votre blog xavierstuder.com en un mot. Et là, vous parlez, bien sûr, on l'a vu, quasi tous les jours des dernières actualités. Donc, on ne saurait trop conseiller à nos auditeurs de venir vous lire. Bonne soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.
Très belle soirée, merci. Et c'est l'heure du Flash Info qui est présidé aujourd'hui par Yann Hasler.
Bonsoir, l'Express et l'Impartial mettent les voiles. La rédaction des quotidiens neuchâtelois quitte la Pierre Amazel à Neuchâtel. Désormais, on en sait plus sur le site retenu. La rédaction reste sur le littoral. Elle ira s'établir à l'aéroport de Neuchâtel sur la commune de Boudry au début 2018. Renseignement sur rtn.ch. Un exercice catastrophe de grande envergure se déroulera en juin 2017 à Neuchâtel. Plus de 1000 personnes participeront à l'opération. C'est ce que révèle le 13e rapport annuel de la région territoriale 1 de l'armée suisse présenté aujourd'hui à Vic dans le Jura. L'homme à l'origine d'une fausse alerte à la bombe qui a cloué hier au sol un appareil de la compagnie Aeroflot qui reliait Genève à Moscou a été prévenu de menaces alarmant la population. L'individu aurait agi de la sorte car il était en retard et pensait ainsi pouvoir attraper son vol. La franchise minimale devrait être indexée régulièrement au coût de l'assurance maladie de base et donc augmentée par 14 voix contre 8. La commission de la santé publique du National propose d'accepter une motion en ce sens du Conseil des États. Les États-Unis ont annoncé de nouveaux allègements de leurs sanctions à l'encontre de Cuba. Il s'agit maintenant de faciliter les échanges dans la recherche médicale et l'achat de cigares et de rhum cubain à l'étranger. En France, une mini-tornade a emporté un chapiteau de cirque et renversé un semi-remorque sur une place d'Ajaccio en Corse. Bilan 23 adultes blessés. Les 350 enfants qui assistaient au spectacle sont sains et saufs. Le gouvernement mexicain espère extrader le narcotrafiquant Joaquin El Chapo Guzman en janvier ou février prochain vers les États-Unis. Une décision doit être prise prochainement par la justice mexicaine. On passe au sport. En ski alpin, Lindsey Vonn renonce à prendre part au géant de Solden en Suède pour le lancement de la Coupe du Monde le 22 octobre. L'américaine sera en pleine promotion de son livre. En cyclisme, la Suisse a obtenu sa première médaille aux Mondiaux de Doha. Le Schaffhouser Reto Müller a en effet pris la troisième place de la course en ligne des juniors moins de 19 ans. Le titre mondial est revenu au Danois Jakob Egholm. Enfin, pour la météo, demain, le ciel sera nuageux en matinée. Ensuite, de belles éclaircies feront leur arrivée dès le début de l'après-midi. Les températures seront douces.
Place publique.
Et on poursuit notre émission Place publique avec un chapitre démographique. Mais oui, vous l'avez appris cette semaine, la population suisse n'a pas seulement vieilli, elle a aussi doublé ces 80 dernières années, passant de 4,1 millions en 1932 à 8,2 millions d'individus en 2014. Est-ce beaucoup ou pas? On va se demander, on va essayer de comprendre derrière ce chiffre quels enjeux se cachent. Un chiffre qui a été dévoilé cette semaine par l'Office fédéral de la statistique dans son portrait de la Suisse, un document qui compile les recensements de la population réalisés en 2010 et 2014. Et ce sera avec vous, Patrick Réra. Bonsoir. Vous êtes Patrick Réra, professeur de géographie à l'Université de Lausanne. Alors, je l'ai dit, la population a doublé en 80 ans. Nous sommes en population résidente 8,2 millions de personnes. Est-ce que selon vous, c'est beaucoup? Cette croissance mérite d'être soulignée?
Elle mérite d'être soulignée parce qu'elle a effectivement un certain nombre d'implications en matière de politique, d'aménagement du territoire, de mobilité. Après, elle n'est pas forcément non plus... ça ne doit pas être un point fixe. C'est-à-dire que cette croissance, elle est importante. Elle est un peu plus importante que la moyenne européenne. Elle est moins importante que ce qu'on va retrouver dans toute une autre série de pays du monde.
Néanmoins, au niveau de l'opinion publique, eh bien, on sent ces temps qu'il y a une inquiétude par rapport à la croissance démographique, principalement due à l'immigration. On pense à Ecopop, on pense à l'initiative du 9 février contre l'immigration de masse, mais aussi à ces initiatives qui ont eu du succès, qui visent à renégocier, à réaménager notre territoire pour éviter son mitage. Est-ce que finalement, on est trop nombreux?
Alors, à mon avis, on n'est pas trop nombreux. Il y a un exercice qui avait été fait par Avenir Suisse, qui était de prendre la ville de Londres. Et ce qui est intéressant avec la ville de Londres, c'est que c'est un peu plus que la population de la Suisse, en fait. Et puis, ils ont calqué la ville de Londres sur le territoire suisse. Et en gros, cette ville de Londres, avec 8,5 millions d'habitants, ça serait même pas la surface du territoire de Zurich. C'est-à-dire que si les Suisses vivaient comme les Londoniens, il y aurait des habitants, des immeubles sur le canton de Zurich et tout le reste du pays serait vierge.
Ça veut dire qu'au niveau des ressources, on pourrait s'en sortir.
C'est-à-dire, ça veut dire que le problème n'est pas vraiment la population en soi et sa croissance, mais ce sont les modes de vie, les habitudes de logement, les habitudes de mobilité, et puis la manière dont cette croissance est planifiée ou n'est pas planifiée.
Vous parlez de manière d'habiter au niveau densification. On a clairement l'impression qu'on peut mieux faire. La Suisse compte 1 700 000 maisons individuelles. Près de la moitié de ces maisons ne sont habitées que par une ou deux personnes. Visiblement, on n'est pas encore trop à l'étroit.
Non, et ça montre en fait une autre dimension que l'évolution de la population, mais c'est les modes de vie, et puis le fait que les ménages sont de plus en plus petits, et puis qu'on habite dans des logements de plus en plus grands.
Et donc, on est loin du compte avec ces fameux 8,2 millions d'habitants. Vous nous disiez, le chiffre d'Avenir Suisse, on pourrait être 29 millions. C'est souhaitable ?
Alors, c'est pas forcément souhaitable. On fait l'exercice en montrant qu'effectivement, si on mettait en plus de Londres, si on ajoutait Berlin, Barcelone, Paris et New York, en fait, il resterait encore énormément de place en Suisse. C'est juste que ça met les choses en perspective. La croissance, c'est pas un but en soi. Il faut voir qu'il y a aussi des points positifs. Si la Suisse gagne des habitants, c'est parce qu'aussi, c'est un pays qui fonctionne bien, dont l'économie est florissante et attire des habitants. Après, c'est vraiment ces modalités de la croissance qui sont à anticiper, à planifier, à aménager.
Et si c'est mal fait, on a l'impression qu'on bétonne la Suisse à certains endroits. Il y a aussi une pression quand même qu'on peut remarquer sur les infrastructures. On parle de mobilité, que ce soit sur la route ou que ce soit dans les transports publics. On sent bien que le trafic augmente de manière sérieuse. D'ailleurs, 9 personnes sur 10 sont pendulaires.
Mmh. 9 personnes sur 10 sont pendulaires, donc travaillent en dehors de leur lieu de domicile. Et on voit aussi que la mobilité, en fait, elle augmente plus vite que la population. Parce qu'on choisit son domicile de plus en plus, éloigné de son lieu de travail, où les deux ne coïncident plus forcément.
Patrick Rera, avec le vieillissement de la population en cours, est-ce que cette pression va se relâcher avec ce sous-entendu qui est peut-être faux, que les personnes plus âgées vont peut-être moins se mouvoir ou rester plus tranquilles ?
Alors pas forcément, parce que les catégories, les générations qui arrivent à la retraite ont eu l'habitude d'être mobiles pendant leur vie active, ont eu accès à la voiture, aux loisirs, etc. Et puis, il est probable que ça soit des catégories qui continuent en fait à se déplacer et puis à créer une demande supplémentaire pour la mobilité.
Nadia, en tout cas, ces histoires de croissance démographique, vous, ça vous fait vous poser beaucoup de questions par rapport à votre lieu d'habitation.
Effectivement, puisque les pendulaires, ce sont les personnes qui quittent leur immeuble pour travailler, j'en fais partie. On est de plus en plus, et puis surtout, on va de plus en plus loin. Alors, c'est l'heure de l'interview, j'habite trop loin. Alors, première question, beaucoup d'entreprises ouvrières sont perdues en pleine campagne ou bien dans les zones industrielles. Alors, comment je fais pour aller rejoindre ces lieux si j'ai pas de voiture ?
Alors là, le problème, il est plutôt du point de vue de l'aménagement du territoire, c'est qu'il faudrait implanter ces usines ou ces entreprises pour rendre possible l'utilisation de transports en commun ou des alternatives à la voiture.
Vous admettez un problème à ce niveau-là, en Suisse romande par exemple, dans nos régions ?
Oui, disons qu'il y a une préoccupation de l'aménagement du territoire qui est relativement récente, qui date de quelques années, c'est clair que dans les années 60, 70, on planifiait le territoire en fonction de la voiture et on revient sur ce modèle depuis quelques temps.
Ensuite, j'habite à Bienne, mais le travail de mes rêves se trouve à Neuchâtel. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois renoncer ou je dois déménager ?
Alors, ce qu'on constate, c'est que les Suisses changent de moins en moins de cantons. Ça fait 30-40 ans que les déménagements entre cantons diminuent, et puis la majorité de la population préfère penduler sur de longues distances que déménager.
Comment vous l'expliquez, cette fidélité, c'est la fidélité aux racines, à son entourage, comment on l'explique ?
Alors, je pense qu'on peut l'expliquer parce qu'en fait, le monde du travail est de plus en plus flexible. La vie personnelle est peut-être aussi moins stable. On cherche des endroits où s'ancrer et on préfère en fait bouger sur une base quotidienne plutôt que déménager.
Ensuite, j'adore la campagne, c'est tranquille, c'est pas très cher, mais j'adore mon travail. Il est stimulant et il est en ville. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de pas bien si je décide de rester dans ma petite campagne et que je bouge tous les jours jusqu'à la ville travailler ?
Alors, ça fait partie de choix de vie qui répondent à des aspirations. Après, la mobilité, c'est un aspect du mode de vie et de la consommation de ressources. Il y en a d'autres.
Et puis finalement, justement, je vais en ville tous les jours depuis ma petite campagne. Je bouge tous les jours, le trajet m'épuise. Alors j'ai deux choix, soit je continue d'être épuisée et d'être compressée dans un train, soit je tue la planète avec ma voiture pour être tranquillement seule.
C'est deux alternatives. Autrement, il y a la possibilité aussi de déménager, parce que la pendularité, se déplacer, ça a aussi un coût en termes de fatigue, en termes de stress. Et parfois, peut-être que le déménagement est une bonne idée.
Est-ce que les nouvelles habitudes de travail dont on parle beaucoup ont un impact ? On parle du télétravail avec les nouvelles technologies, ça permet d'être présent sans être là. Est-ce que ça joue aussi un rôle et ça peut un peu alléger la pression ?
Alors, il y a beaucoup d'espoir placé dans le télétravail, mais il y a le risque en fait d'avoir des effets pervers. C'est-à-dire que le fait de ne pas devoir penduler, par exemple, pendant un ou deux jours pendant la semaine, ça peut inciter en fait les gens à habiter encore plus loin. C'est-à-dire qu'on pendule sur de longues distances, pendant trois jours, mais pendant deux jours, en fait, il suffit de se rendre à la pièce à côté. Donc, c'est pas forcément la panacée par rapport à la mobilité. En tout cas, on a encore quelques interrogations sur les effets concrets que ça aura.
Les centres attirent les emplois et génèrent de la pendularité, ça paraît logique. C'est évidemment dans le canton de Soleure qu'il y a le plus de pendulaires parce qu'on va volontiers qui font des distances importantes, parce qu'on va à Zurich, c'est là où il y a des emplois, on va volontiers aussi dans l'arc lémanique. Est-ce que ce phénomène va s'accroître ? Est-ce que les centres vont de plus en plus attirer de monde et faire se développer la pendularité ? Ou est-ce que vous pensez que on va de plus en plus aussi éclater ces centres en périphérie ?
Alors, on a une tendance, en fait, à la création d'emplois qui est plutôt vraiment dans les grands centres ou dans les régions autour des grands centres. Et c'est vrai qu'on a pu constater, en fait, ces 30 dernières années, un renforcement des métropoles, en fait, des grandes régions urbaines en Suisse.
Alors, il y a des métropoles qui sont très fortes, mais il y a aussi des zones géographiques, comme typiquement l'arc jurassien qui compte bon nombre d'entreprises horlogères. Alors, toujours si j'habite trop loin, est-ce que si j'habite dans l'arc jurassien, je dois devenir horlogère, sinon je dois déménager ailleurs ?
Je pense qu'il y a d'autres entreprises et d'autres possibilités, mais c'est vrai que on voit aussi que les flux pendulaires sortants, c'est-à-dire des gens qui habitent dans l'arc jurassien et qui vont en direction du plateau, augmentent. Donc ça peut être aussi une stratégie pour rester dans la région.
Pour terminer, Patrick Rera, ce serait quoi le chiffre magique, le chiffre d'or pour un nombre de personnes dans la population ? Est-ce qu'il y a, on a parlé de population de 29 millions, mais est-ce que le chiffre actuel est idéal à bien des égards ? Ou est-ce que des régions devraient davantage se développer ? Ou est-ce qu'il faut encore compter sur une croissance ?
Il n'y a pas de chiffre ou un objectif idéal, c'est plus une question sociale, une question politique. Après, ce qu'on peut constater en Suisse, c'est que les régions qui connaissent une forte croissance, eh bien ça leur pose problème. Les régions qui connaissent une faible croissance ou qui sont en stagnation, ça leur pose également problème. Les régions qui sont en décroissance, ça leur pose encore plus de problèmes. Donc je pense qu'il faut plutôt essayer de prendre le débat de manière sereine et puis finalement aménager la croissance ou concevoir en fait ce à quoi on voudrait que leur territoire ressemble.
Merci beaucoup Patrick Rera d'être venu interpréter pour nous cette étude de l'Office fédéral de la statistique, donc qui dit que depuis 1932, notre population a simplement doublé. On vous souhaite une bonne suite de soirée, un bon week-end et à bientôt.
Merci.
Place publique.
Ils sont sept à vouloir représenter la droite en vue de l'élection présidentielle française. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet et consorts ont pris part hier soir au premier débat télévisé de cette primaire. Durant plus de deux heures, chacun a défendu bec et ongle son programme. 5 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous et parmi eux, Denis de la Russie, conseiller communal du Locle et conseiller national popiste, ainsi que Caroline Matteucci, profiler et spécialiste du langage non-verbal. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Alors Denis de la Russie, on fait appel à votre regard de politicien de métier hein, pour évaluer les performances des candidats. Entendu qu'en tant que représentant de la gauche, on imagine, vous n'étiez pas tellement en accord avec la plupart des opinions exprimées.
Mais j'aurais surtout envie de dire, en préambule, c'est la forme même du débat qui m'interpelle. Moi, j'ai regardé ce débat, effectivement, avec sept candidats, mais j'ai l'impression que, contrairement à ce que vous avez dit, ils n'ont pas un programme différent, ils ont le même programme, ils ont simplement des nuances, des caractères différents, des tempéraments différents, mais exactement le même programme. Et malheureusement, j'ai moi le sentiment que ce genre de débat ne va pas amener un seul citoyen ou une seule citoyenne française qui pense s'abstenir, ne va pas ramener une seule personne aux urnes. Et je pense qu'il y a vraiment une limite à ces débats, et je pense que même il serait peut-être bon de réfléchir à est-ce que ces primaires sont une bonne chose ou pas. Moi, j'ai beaucoup de doutes à ce niveau-là.
Reste qu'au niveau de la performance pure, en tant que politicien, on imagine que vous savez aussi l'évaluer. Lequel vous a le plus convaincu ?
Mais j'ai envie de dire, c'est justement ça qui m'embête, parce que moi, la performance ne m'intéresse pas tellement. C'est le programme, c'est le fond. Est-ce que ces candidats ont parlé de transition énergétique ? Non. Est-ce qu'ils ont parlé des 9 millions de pauvres en France ? Alors que là, en France, il y a 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de la pauvreté. Donc, ces débats de fond ne sont pas, je dirais, présents dans ce genre de débat, et c'est ce qui me gêne. Après, si on doit vraiment s'arrêter sur la performance, comme vous le dites, de ces candidats, bon, c'était assez classique. Monsieur Juppé a été, je dirais, très prudent, puisqu'il c'est le favori, passez-moi l'expression, du Parti des Républicains.
Vous l'avez trouvé à la hauteur des attentes et de ce que disent les sondages ?
Comme on dit, je dirais, dans le monde, des fois, politicien et des médias, il est tout à fait présidentiable, c'est sûr. Mais disons que, malheureusement, je trouve que ça manque de fond et ça manque vraiment les limites de ce genre d'exercice. Je me permets quand même juste de rappeler que les sept personnes qui étaient présentes hier soir ont toutes déjà été ministres, dont, sauf erreur, quatre ou cinq sous le gouvernement de M. Sarkozy. Et là, on les présente médiatiquement comme étant opposés sur des questions de fond. C'est pas vrai. Pourtant, ils sont opposés sur des questions, je dirais, d'égo, sur des questions d'ambition, sur des questions, mais très très peu sur des questions de fond.
Caroline Matteucci, vous êtes, on l'a dit, profiler et spécialiste du langage non-verbal. Est-ce que pour vous, Alain Juppé, donné gagnant, l'a aussi emporté justement avec autre chose que les mots ?
Alors, bon, la précision que je ferais, c'est que ce n'est pas du profilage que j'ai fait en regardant l'émission, c'est vraiment de la lecture comportementale. Donc, si on veut parler de l'impact du leadership, de savoir poser les bons manipulatoires au bon moment, avec le bon langage verbal, effectivement, on peut voir que M. Juppé est quelqu'un qui a déjà pris la parole en public et qui sait comment faire pour augmenter son impact.
On a l'impression qu'ils étaient pas mal à bien se défendre au niveau de la prise de parole. Qu'est-ce qui fait qu'il l'a emporté par rapport aux autres, dans ses mouvements du corps, dans sa manière de parler, le ton de sa voix, que sais-je ?
Bon, il n'est pas le seul à s'être démarqué, mais je pense qu'il y a déjà, comme disait notre interlocuteur, je n'ai pas retenu le nom.
Denis de la Russie.
Denis, voilà, je gardais Denis, le reste, je ne peux pas me souvenir. C'est aussi la forme de l'interview fait qu'il y a aussi des gens qui ont déjà eu des postes, comme M. Sarkozy, comme président, donc forcément, il y a aussi des jeux de pouvoir. Hein. Donc je pense que d'autres personnes auraient peut-être pu se défendre au niveau, on parle bien du langage du corps, différemment, selon comment avait été menée l'interview.
Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé ou encore François Fillon, des ennemis politiques farouches. Est-ce que, selon vous, Denis de la Russie, ils ont réussi à maîtriser leurs nerfs, à éviter de tomber dans le piège du pugilat ?
Oui, c'est des professionnels de la politique, comme j'ai dit, quasiment ont déjà été ministres. Donc évidemment, ils ont des staffs qui les accompagnent, ils suivent des cours pour effectivement apprendre à parler en public. Tout ça n'amène, à mon avis, aucune nouveauté, aucune surprise, aucun intérêt nouveau. J'ai même envie de dire que pour moi, j'ai presque envie de dire, peut-être avec un mot un peu fort, mais c'est presque la négation de la politique. Quand on arrive à voir que le lendemain, les commentateurs se disent « Ah oui, Madame Corduccio-Morizet est sortie du lot. Ah oui, elle était habillée en rouge. C'est la seule qui avait des couleurs dans son habillement. » Moi, je suis triste de voir ça. J'ai beaucoup d'attache pour la France. Je suis à moitié français. Ma mère est auvergnate. Je vois ça avec tristesse. Je vois cette évolution de la politique avec tristesse. J'aimerais qu'on parle du fond. Je parle J'aimerais qu'on parle, comme j'ai dit tout à l'heure, des 9 millions de pauvres en France. J'aimerais qu'on parle de la réindustrialisation de la France qui a perdu des centaines de milliers d'emplois et non pas, je dirais, des tenues vestimentaires ou des questions vraiment d'égo ou de forme, puisque, je le répète, cette personne-là ont quasiment le même programme politique.
Et c'est peut-être justement pour ça que le détail de la tenue vestimentaire et du langage non-verbal compte. Caroline Matteucci, qu'avez-vous pensé de la prestation de l'unique femme sur le plateau ? Denis de la Russie parlait de cette robe rouge, on l'a tous remarqué. Est-ce que, selon vous, elle était à l'aise dans cet exercice ? Est-ce qu'elle a réussi à garder le pouvoir malgré une forte présence masculine ?
Bon, alors déjà, je pense pas qu'une couleur de vêtement fait partie de la lecture comportementale. Si on doit revenir sur votre question, c'est une femme qui, comme disait Denis, forcément, ils ont tous des équipes derrière eux pour leur apprendre à prendre la parole en public. Mais peut-être qu'on a pu voir chez elle, c'est que si on parle de baseline, c'est-à-dire comment elle se comportait pendant tout l'interview, à un moment donné, quand même, elle casse sa baseline, et c'est ce que nous, on cherche en tant que lecteur comportemental. Elle va se mettre en avant sur son pupitre quand on la questionne sur si elle est de droite ou socialiste. Et là, peut-être, elle montrait que, justement, cette femme, Madame Montet, est peut-être plus forte qu'elle a pu paraître dans ce débat, parce que c'était vraiment un acte, au niveau langage non-verbal, de se mettre en avant et d'oser aller en se mettant ça. C'est des choses qu'on peut voir.
Alors justement, faire un discours, c'est pas quelque chose de facile. Vous l'avez dit, il y a des tics de langage, des tics corporels. Elle se met en avant, Nathalie Coscomorizet. Alors, comment est-ce qu'il faut agir ? Voici l'interview « Si j'étais présidente de la République » ou « Si j'étais candidate à la présidence de la République ». Alors la première question, si j'étais candidate, est-ce que m'adresser à la caméra, plutôt qu'au journaliste qui m'a posé la question, c'est mieux, Caroline Matteucci ?
Alors la première chose, si vous deviez devenir présidente, demandez qu'il vous enlève les pupitres. Je réponds un petit peu à côté, mais c'est vraiment la première chose, parce qu'un pupitre met une barrière, et avec les journalistes, et avec vos téléspectateurs. Et bien sûr, regardez la caméra pour jouer avec la personne qui est de l'autre côté.
Ensuite, donc si j'étais candidate, on revient sur cette robe rouge, est-ce que c'est une faute de goût ?
Je ne fais pas de lecture d'habits, ce n'est pas de la lecture comportementale pour moi.
Et pour vous, Denis de la Russie, porter du rouge, est-ce que c'était bien vu ou il fallait rester sobre comme les autres candidats ?
De toute façon, porter du rouge, c'est toujours une couleur qui est une superbe couleur et qui me parle au niveau historique.
Bah oui.
Mais pour être plus sérieux, je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, comme on l'a dit, il y a des conseillers, de multiples conseillers, donc tout est bon pour apparaître. Je préférerais toujours et encore qu'on parle du fond. Et effectivement, dans cette soirée, en termes sociétal, Madame Coscomorizet a parlé, un peu différemment. C'est surtout là-dessus que j'aurais envie de débattre. Et même si, évidemment, on s'intéresse aussi à la forme, moi, je rappelle que l'important, c'est le fond. L'important, c'est effectivement le pouvoir d'achat des Français, par exemple. C'est l'évolution. Oui ou non, est-ce qu'on continue avec l'énergie nucléaire ? Et puis, c'est peut-être un tout petit peu particulier dans le genre de débat et de l'évolution du débat. Moi, je trouve que ce débat d'hier soir nous a fait très, très, très peu réfléchir. Est-ce que vraiment un des candidats ou une candidate qu'on a écouté nous a permis de nous dire « Ah ben là, vraiment, elle m'interpelle, vraiment, elle me fait réfléchir, j'ai beau chercher, je ne trouve pas ».
Denis de la Russie, on est désolé de vous contraindre à parler de la forme, même si vous arrivez habilement à nous parler du fond. Vous-même, en tant qu'homme politique, vous n'hésitez pas à éviter les codes traditionnels. La cravate, c'est pas pour vous. Après, il y avait hier un politicien qui a renoncé à la cravate en la personne de Bruno Le Maire. Qu'on se le dise, l'apparence vestimentaire dit quand même quelque chose sur un programme, sur des idées. Vous en êtes un exemple.
Mais je ne crois pas forcément, parce qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit on ne met pas une cravate dans un débat, justement, d'un coup, pour apparaître différemment, se singulariser, c'est une manière de faire. Pour ma part, je n'ai jamais porté de cravate dans ma vie. Donc, ce n'est pas parce que je suis arrivé comme conseiller communal, maire d'une ville, et maintenant, au Conseil national, que je vais changer. Donc, passez-moi l'expression, ce n'est pas une posture. J'ai tout le temps été comme ça, à part, effectivement, la période d'armée en Suisse où on doit porter la cravate. Autrement, je ne l'ai jamais portée. Ce n'est pas du tout la même démarche, à mon avis, que de s'instrumentaliser, de se mettre en avant, de chercher une manière de se démarquer, justement, qui revient à des problèmes de forme et pas de fond.
Au-delà du style vestimentaire des candidats, certains gardaient un stylo à la main quand ils parlaient. Alors justement, si je suis candidate à la présidence et que pendant mon discours, j'agite un stylo comme ça, est-ce que ça prouve un manque de confiance en public, Caroline Matteucci ?
Alors, permettez-moi juste revenir sur la cohérence au niveau de la cravate, et je vous réponds, c'est promis. Mais je rejoins Monsieur de la Rochelle en disant que si vous n'avez jamais porté de cravate, et que ce jour-là, vous mettez une cravate, vous n'allez pas être en cohérence avec votre langage du corps, parce que vous n'allez pas être à l'aise. Pour répondre à votre question sur le stylo, c'est comme tout. Tout ce que vous allez mettre devant vous, c'est une barrière pour vous protéger. Que vous mettiez un bureau, que vous mettiez une feuille, que vous mettiez vos lunettes à tourner, ce qui est dommage, c'est simplement, ça veut dire à un moment donné, vous cassez le contact avec la personne en face de vous, parce qu'on va regarder votre main et votre stylo. Et comme disait Monsieur Delarotier, on va plus écouter le fond de ce que vous êtes en train de dire.
Puis on a vu aussi d'autres candidats, lorsqu'ils répondaient à des questions, rester impassibles, et d'autres qui levaient les sourcils en parlant. Est-ce que ça veut dire quelque chose?
Alors ça peut vouloir dire, ça dépend toujours, comme j'ai dit, la baseline. La baseline, c'est l'idiosyncrasie des personnes, qu'elles sont dans un état neutre. Donc si vous parlez par exemple toujours en levant les sourcils, et puis que je vais vous poser une question interrogative, vous levez les sourcils, c'est votre baseline. Ça veut dire que je n'ai pas cassé quelque chose. Par contre, on a pu voir une micro-expression par exemple de peur, et les micro-expressions ne sont pas contrôlées, donc elles sont incontrôlables puisqu'elles viennent du cerveau limbique, d'un des participants au débat sur une question où il avait peut-être pas envie de répondre ou il avait peur de répondre. Ça, c'est plus significatif qu'un sourcil qui se soulève, parce que ça peut être un signe d'interrogation.
Et puis finalement, si j'étais candidate à la présidence française, comment je devrais agir pour paraître vrai, que ce soit dans le discours que j'ai ou dans la gestuelle que j'adopte?
Eh bien, c'est ce qu'on va parler, c'est l'alignement. Ça veut dire que pour être dans l'alignement, vous devez être d'accord sur le fond que vous êtes en train de défendre. Vous devez avoir un langage corporel qui correspond à ce que vous êtes en train de dire et à qui vous êtes. Et vos micro-expressions, vous ne devez pas les contrôler. Donc si vous êtes en train de mentir, la micro-expression de peur, de dégoût, de mépris va apparaître. Donc j'encouragerais tous les hommes politiques à bien travailler cet alignement entre ce que je veux défendre et qui je suis. Et du coup, l'impact sera vrai.
Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce que vous avez pensé de ce débat, tant au niveau du langage corporel, non-verbal, que du fond des idées. On a bien compris, Denis de la Russie, que vous n'avez été guère convaincu. Et Madame Matteucci, on retient bien sûr avec beaucoup d'intérêt les remarques que vous nous avez données. On vous souhaite à tous les deux une bonne soirée, évidemment. Et puis, on souhaite à tous nos éditeurs la même chose, Nadia.
Oui, effectivement, Gabriel.
Au revoir.
On vous remercie infiniment. Belle soirée, merci. Et on vous souhaite à tous et à tous une très belle soirée. Et puis surtout, si vous voulez réécouter cette émission, elle est disponible sur notre site rtn.ch. Belle soirée, Gabriel.
Salut, Nadia.
Place publique.